Deuxième jour. Matine. Où quelques heures de félicité mystique sont interrompues par un fort sanglant événement. Symbole tantôt du démon, tantôt du Christ ressuscité, aucun animal n'est plus suspect que le coq. Notre ordre en connut des paresseux qui ne chantaient pas au lever du soleil. Et d'autre part, surtout dans les journées hivernales, l'office de matine a lieu quand la nuit est encore profonde et la nature tout endormie, car le moine doit se lever dans l'obscurité et longuement dans l'obscurité prier en attendant le jour et en illuminant les ténèbres de la flamme de sa dévotion. C'est pourquoi, sagement, la tradition prévoit des veilleurs, les moines excitateurs, qui ne se couchent pas comme leurs frères, mais passent la nuit en récitant rythmiquement le nombre exact de psaumes qui leur donne la mesure du temps écoulé, de façon que, au terme des heures vouées au sommeil des autres, par un signal, ils excitent les autres à la veille. Nous fûmes donc cette nuit-là réveillés par ceux qui parcouraient le dortoir et l'hôtellerie en sonnant une clochette, tandis qu'un autre allait de cellule en cellule en criant « Le Benedicamus Domino », à quoi chacun répondait « Deo gratias ». Guillaume et moi, nous nous conformâmes à l'usage bénédictin. En moins d'une demi-heure, nous nous apprêtâmes à affronter la nouvelle journée, puis nous descendîmes dans le chœur où les moines attendaient prostrés sur les dalles, en récitant les 15 premiers psaumes, jusqu'au moment où entrèrent les novices conduits par leur maître. Ensuite, chacun s'assit dans sa propre stalle, et le chœur entonna « Domine labia mea aperies et host meum annunciabit laudem tuam ». Le cri s'éleva vers les voûtes de l'église comme la supplique d'un enfant. Deux moines montèrent en chaire et ouvrirent à pleine voix le psaume 94 « Venite exultemus », que suivirent les autres prescrits. Et j'éprouvai l'ardeur d'une foi renouvelée. Les moines étaient dans les stalles, 60 figures rendues pareilles par le froc et le capuchon, 60 ombres à grand-peine éclairées par le feu du grand trépied, 60 voix unies dans les louanges du Très-Haut. Et en entendant cet émouvant concert, vestibule conduisant aux délices du paradis, je me demandais si vraiment l'abbaye était un lieu de mystère soigneusement caché, d'illicites tentatives de les dévoiler et d'obscures menaces. Parce que maintenant, au contraire, elle m'apparaissait comme un cénacle de vertu, une châsse de sapience, une arche de prudence, une tour de sagesse, un enclos de mansuétude, un bastion de courage, un encensoir de sainteté. Après 6 psaumes, commença la lecture de la Sainte Écriture. Certains moines dodelinaient de sommeil et un des moines circateurs déambulait entre les stalles avec une petite lanterne pour réveiller qui s'endormirait. Si quelqu'un était surpris en proie à l'assoupissement, par pénitence il prenait la lanterne et continuait le tour de contrôle. Ensuite, on entonna le chant de 6 autres psaumes. Après quoi, l'abbé donna sa bénédiction, l'hebdomadier dit les prières. Tous s'inclinèrent vers l'autel en une minute de recueillement, dont personne, s'il n'a vécu ces heures d'ardeur mystique et de suprême paix intérieure, ne peut comprendre la douceur. Enfin, le capuchon rabattu de nouveau sur le visage, tous s'assirent et entonnèrent solennellement le Te Deum. Moi aussi, je louais le Seigneur parce qu'il m'avait libéré de mes doutes et délivré du sentiment de malaise où la première journée à l'abbaye m'avait jeté. « Nous sommes des êtres fragiles, me dis-je. Même parmi ces moines doctes et pieux, le malin fait rôder les petites envies, les inimitiés subtiles, mais il s'agit de fumée qui se dissipe au vent impétueux de la foi. À peine se réunissent-ils tous au nom du Père, Christ descend encore parmi eux. » Entre matine et l'aude, le moine ne regagne pas sa cellule, même si la nuit est encore profonde. Les novices suivirent leur maître dans la salle capitulaire pour étudier les psaumes. Quelques moines restèrent dans l'église pour vaquer aux soins des objets du culte. La plupart déambulèrent en méditant en silence dans le cloître. Et ainsi fîmes-nous, Guillaume et moi. Les servants dormaient encore et continuaient à dormir quand, le ciel toujours sombre, nous revînmes dans le chœur pour les laudes. Le chant des psaumes recommença, et l'un d'eux en particulier, de ceux prévus pour le lundi, me replongea dans mes premières craintes. La faute s'est emparée de l'impie, de l'intime de son cœur. Il n'est crainte de Dieu dans son regard. Il agit par fraude devant lui, de façon que sa langue devienne odieuse. Ce me parut un mauvais présage que la règle eût prescrit précisément pour ce jour-là un avertissement aussi terrible. La traditionnelle lecture de l'Apocalypse après les psaumes de l'aude ne calma pas non plus mes frémissements d'inquiétude et me revinrent à l'esprit les figures du portail qui, la veille, m'avaient tant subjugué cœur et yeux. Mais après le répond, l'hymne et le verset, quand commençait le cantique de l'Évangile, j'aperçus derrière les fenêtres du chœur, juste au-dessus de l'autel, une pâle clarté qui faisait déjà luire les couleurs des vitraux, jusqu'alors tristement enténébrés. Ce n'était pas encore l'aurore qui triompherait pendant prime, juste au moment où nous chanterions « Deus qui est sanctorum splendor mirabilis et iam lucis orto sidere ». C'était à peine la première et chancelante annonce de l'aube hivernale, mais ce fut suffisant, et elle fut suffisante, pour raffermir mon cœur, la légère pénombre qui, dans la nef, remplaçait maintenant l'obscurité de la nuit. Nous chantions les paroles du livre divin, et tandis que nous témoignions du Verbe venu éclairer les gentils, j'eus l'impression que l'astre diurne, dans toute sa splendeur, envahissait le temple. La lumière, encore absente, me sembla briller dans les paroles du cantique, lys mystique qui s'épanouissait tout parfumé entre les arêtes des voûtes. « Merci, ô Seigneur, pour ce moment de joie ineffable, » priai-je en silence, et j'interpellai mon cœur. « Et toi, sot que tu es, que crains-tu ? » Soudain, des clameurs s'élevèrent du côté de la porte septentrionale. Je me demandai pourquoi les servants, en se préparant au travail, troublaient ainsi les saintes fonctions. À cet instant, entrèrent trois porchers, la terreur peinte sur leurs faces, et ils se pressèrent autour de l'abbé pour lui murmurer quelque chose. L'abbé d'abord les calma d'un geste, comme s'il ne voulait pas interrompre l'office, mais trois autres servants entrèrent, les cris se firent plus forts. « C'est un homme mort !» disait quelqu'un, et d'autres. « Un moine, n'as-tu pas vu ces choses ?» Les orants se turent. L'abbé sortit précipitamment, faisant signe aux scélériers de le suivre. Guillaume leur emboîta le pas, mais déjà les autres moines aussi abandonnaient leur stalle et se précipitaient dehors. Le ciel était clair maintenant, et la neige sur le sol rendait encore plus lumineux le plateau. Sur l'arrière du chœur, devant les sous, où depuis la veille trônait le grand récipient empli du sang des cochons, un objet bizarre, presque cruciforme, pointait du bord de la jarre comme s'il s'agissait de deux pieux fichés en terre et qu'il faut recouvrir de chiffons pour épouvanter les oiseaux. C'était en revanche deux jambes humaines, les jambes d'un homme enfoncé la tête la première dans le vase de sang. L'abbé ordonna qu'on retirât le cadavre du liquide infâme, car hélas, aucune personne vivante n'aurait pu rester dans cette position obscène. Les porchers hésitants s'approchèrent du bord et, se souillant de sang, en tirèrent la pauvre chose sanguinolente. Comme on me l'avait dit, remuer selon qu'il le faut sitôt après avoir été versé et laissé au froid, le sang ne s'était pas caillé, mais la couche qui recouvrait le cadavre tendait maintenant à se solidifier, en imbibait les vêtements, rendait le visage méconnaissable. Un servant s'avança une seille d'eau à bout de bras et en jeta sur la face de cette malheureuse dépouille. Quelqu'un d'autre se pencha sur elle avec un linge pour en nettoyer les traits. Et apparut à nos yeux le visage blanc de Venantius de Salvemec, le savant S. chose grecque, avec qui nous avions parlé dans l'après-midi devant les manuscrits d'Adelme.
« Il est possible qu'Adelme se soit suicidé, » dit Guillaume en fixant ce visage. « Mais certes pas celui-ci, et on ne peut penser qu'il se soit hissé par hasard jusqu'au bord de la jarre et qu'il soit tombé par erreur. »
L'abbé s'approcha de lui.
« Frère Guillaume, comme vous le voyez, il se passe quelque chose dans l'abbaye, quelque chose qui requiert toute votre sagesse. Mais je vous en conjure, faites vite !»
« Était-il présent dans le chœur durant l'office ?» demanda Guillaume en indiquant le cadavre.
« Non, » dit l'abbé. « J'avais remarqué que sa stalle était vide. »«
Aucun autre n'était absent ?»«
Je n'ai pas l'impression. Je n'ai rien remarqué d'autre. »
Guillaume hésita avant de formuler la nouvelle question, et il la posa dans un murmure, veillant à ce que les autres n'entendissent point.
« Béranger était-il à sa place ?»
L'abbé le regarda avec une admiration mêlée d'inquiétude, comme pour signifier qu'il était frappé de voir mon maître nourrir un soupçon que lui-même avait un instant nourri, mais pour de plus compréhensibles raisons. Puis il dit rapidement
« Il y était, sa place se trouve au premier rang, presque à ma droite. »
« Naturellement, dit Guillaume, tout ceci ne signifie rien. Je ne crois pas que pour entrer dans le chœur quelqu'un soit passé derrière l'abside, et donc le cadavre pouvait déjà se trouver là depuis plusieurs heures, au moins à partir du moment où tout le monde s'en était allé dormir.
« Certes, les premiers servants se lèvent avec l'aube, et c'est pour cela qu'ils ne l'ont découvert qu'à présent. »
Guillaume se pencha sur le cadavre, comme s'il était rompu à manier les corps morts. Il trempa le linge abandonné à côté de la seille et essuya mieux le visage de Venantius. Pendant ce temps-là, les autres moines s'attroupaient épouvantés, formant un cercle criard auquel l'abbé imposait le silence. Parmi eux, Séverin se fraya un chemin à qui était confié le soin des corps de l'abbaye et se pencha près de mon maître. Moi, pour entendre leur dialogue et pour aider Guillaume qui avait besoin d'un nouveau linge propre imbibé d'eau, je m'unis à eux, surmontant ma terreur et mon dégoût.
« As-tu jamais vu un noyé ?» demanda Guillaume.
« Plus d'une fois, » dit Séverin. « Et si je devine ce que tu veux dire par là, ils n'ont pas ce visage, leurs traits sont gonflés. »
Alors l'homme était déjà mort quand on l'a flanqué dans la jarre.
« Pourquoi aurait-on dû faire cela ?»«
Pourquoi aurait-on dû le tuer ?»«
Nous sommes en présence de l'œuvre d'un esprit altéré. » Mais pour l'heure, il faut voir si le corps présente des blessures ou des contusions. Je propose de le transporter dans les balnéas, de le déshabiller, le laver et l'examiner. Je te rejoins tout de suite. »
Et tandis que Séverin, après licence de l'abbé, faisait transporter le corps par les porchers, mon maître demanda qu'on fît rentrer les moines dans le chœur en suivant exactement le même chemin qu'ils avaient pris pour venir et que les servants se retirassent de même afin que l'esplanade restât déserte.
L'abbé ne lui demanda pas le pourquoi de ce désir et le satisfit. Nous demeurâmes ainsi seuls, à côté de la jarre d'où le sang avait débordé pendant la macabre opération de récupération, avec tout autour la neige rouge fondue à plusieurs endroits sous l'eau répandue et une grande plaque sombre où le cadavre avait été allongé.
Un bel embrouillamini, dit Guillaume en montrant le jeu complexe des traces laissées par les moines affolés et par les servants.
« La neige, cher Atso, est un admirable parchemin sur lequel le corps des hommes laisse des écritures fort lisibles. Mais ça, c'est un palimpseste mal gratté, et peut-être n'y lirons-nous rien d'intéressant. » D'ici à l'église, ça a été une grande course de moines empressés. D'ici à la soue et aux étables, sont venus des servants par bandes entières. L'unique espace intact est celui qui va des soues à l'édifice. « Voyons si nous trouvons quelque chose d'intéressant. »«
Mais que voudriez-vous trouver ?» demandai-je.
« S'il ne s'est pas jeté tout seul dans le récipient, quelqu'un l'y aura porté et j'imagine déjà mort. Qui transporte le corps d'un autre laisse des traces profondes dans la neige. Et alors, cherche si tu trouves par là, alentour, des traces qui te semblent différentes de celles laissées par ces moines vociférateurs qui nous ont gâché notre parchemin. » Ainsi fîmes-nous, et je dis sans embâge que ce fut moi, Dieu me sauve de la vanité, qui découvris quelque chose entre le récipient et l'édifice. C'étaient des empreintes de pieds humains, assez profondes, dans une zone où personne n'était encore passé, et comme remarqua aussitôt mon maître, plus légères que celles laissées par les moines et par les servants, signe que de la neige les avait en partie comblées et qu'elles avaient donc été laissées depuis un certain temps. Mais ce qui nous sembla le plus digne d'intérêt, c'était qu'avec ces empreintes s'entremêlait une trace plus continue, comme d'une chose traînée par celui qui avait laissé la marque de ses pas. En somme, une traînée qui allait de la jarre à la porte du réfectoire, sur le côté de l'édifice qui se trouvait entre la tour méridionale et la tour orientale.
Réfectoire, scriptorium, bibliothèque, dit Guillaume.
Une fois de plus, la bibliothèque.
Venantius est morte dans l'édifice et plus probablement dans la bibliothèque.
Et pourquoi précisément dans la bibliothèque ?
J'essaye de me mettre dans la peau de l'assassin. Si Venantius était mort, tué dans le réfectoire, dans la cuisine ou dans le scriptorium, pourquoi ne pas l'abandonner là ?
Mais s'il est mort dans la bibliothèque, il fallait le transporter ailleurs, soit parce qu'on ne l'aurait jamais découvert dans la bibliothèque, et l'intérêt de l'assassin était peut-être justement qu'il fût découvert, soit parce que l'assassin ne veut probablement pas que l'attention se concentre sur la bibliothèque.
Et pourquoi l'assassin pouvait-il avoir intérêt qu'il fût découvert ?
Je ne sais pas, j'émets des hypothèses.
Qui te dit que l'assassin a tué Venantius parce qu'il haïssait Venantius ?
Il pourrait l'avoir tué de préférence à n'importe quel autre, pour laisser un signe, pour signifier quelque chose d'autre.
Omnis mundi creatura, quasi liber et pictura,
murmurai-je. Mais de quel signe s'agirait-il ?
Et voilà ce que j'ignore. N'oublions pourtant pas qu'il est des signes qui paraissent tels et qui sont au contraire dénués de sens, comme blitiri ou boubabaf.
Il serait atroce, dis-je, de tuer un homme pour dire boubabaf.
Il serait atroce, commenta Guillaume, de tuer un homme, fût-ce pour dire credo inunum deum.
À ce moment-là, nous fûmes rejoints par Séverin. Le cadavre avait été lavé et examiné avec soin. Aucune blessure, aucune contusion à la tête. Mort comme par enchantement.
Comme par châtiment divin ? Demanda Guillaume.
Peut-être, dit Séverin.
Ou par empoisonnement ?
Séverin hésita.
Peut-être aussi.
Tu as des poisons dans le laboratoire ? Demanda Guillaume, tandis que nous nous dirigions vers l'hôpital.
Cela dépend de ce que tu entends par poison. Il y a des substances qui, à petite dose, sont salutaires et à dose excessive procurent la mort.
Comme tout bon herboriste, j'en conserve et en use avec discernement. Dans mon jardin, je cultive par exemple de la valériane. Quelques gouttes dans une infusion d'autres herbes calment le cœur qui bat de façon désordonnée. Une dose exagérée provoque torpeur et mort.
Et tu n'as pas remarqué sur le cadavre les signes d'un poison particulier ?
Aucun.
Mais de nombreux poisons ne laissent point de traces.
Nous étions arrivés à l'hôpital. Le corps de Venantius, lavé dans les balnéas, y avait été transporté et gisait sur la grande table dans le laboratoire de Séverin. Alambics et autres instruments de verre et de terre me firent songer, mais je n'en avais par des récits qu'une connaissance indirecte, à la boutique d'un alchimiste. Sur un long rayonnage qui courait contre le mur extérieur, s'étendait une abondante série de fioles, brocs, vases, pleins de substances de différentes couleurs.
« Une belle collection de simples, » dit Guillaume.
« Tous produits de votre jardin ?»«
Non, » dit Séverin. « Nombre de ces substances, rares et qui ne poussent pas dans ces régions, m'ont été rapportées au cours des ans par des moines qui provenaient de toutes les parties du monde. » J'ai des choses très précieuses et introuvables au milieu de substances qu'il est aisé d'obtenir à partir de la végétation de ces lieux. Tu vois, agatipilé, il provient du Caté, et je lus d'un savant arabe. Aloès socotrin, il vient des Indes, excellent cicatrisant. Ariante vivant, il ressuscite les morts, ou pour mieux dire, réveille ceux qui ont perdu l'essence.
Arsenaco, très dangereux, poison mortel pour qui l'avale.
Bourrache, plante bonne pour les poumons malades.
Bétoine, excellente pour les fractures du crâne.
Mastic, refrène les flux pulmonaires et les catarrhes gênants.
Myrrhe,
celle des mages ? Demandai-je.
Celle des mages, mais bonne aussi pour prévenir les avortements.
Et ça, c'est de la moumilla, d'une grande rareté, produite à partir de la décomposition des cadavres momifiés. Elle sert à préparer de nombreux médicaments presque miraculeux.
Mandragola, bonne pour le sommeil
et pour susciter le désir de la chair, commenta mon maître.
Dit-on, mais ici, on ne l'utilise pas dans un tel sens, comme vous pouvez l'imaginer, sourit Séverin.
Et regardez ça,
dit-il en prenant un flacon. Tutti, miraculeuse pour les yeux.
Et qu'est-ce que cela ? Demanda vivement Guillaume en touchant une pierre qui se trouvait sur une étagère.
Cette pierre, on me l'a donnée il y a bien longtemps. On l'appelle l'opris amatiti ou lapis hématitis. Il paraît qu'elle possède de différentes vertus thérapeutiques, mais je n'ai pas encore découvert lesquelles. Tu la connais ?
Oui, dit Guillaume, mais pas comme médicament.
Il tira de sa coule un canif, manié avec une extrême délicatesse, l'amena à une très courte distance de la pierre. Je vis que la lame accomplissait un brusque mouvement, comme si Guillaume avait bougé le poignet, qu'il tenait au contraire tout à fait immobile. Et la lame adhéra à la pierre avec un léger bruit de métal.
« Tu vois, me dit Guillaume, elle attire le fer. »«
Et à quoi sert-elle » demandai-je.
« À différentes choses que je te dirai. Mais pour l'instant, je voudrais savoir, Séverin, s'il n'y a rien ici qui pourrait tuer un homme. »
Séverin réfléchit un moment, trop longtemps, dirais-je, vu la limpidité de sa réponse.
« Beaucoup de choses. Je te l'ai dit, il en faut bien peu pour passer du poison au médicament. À l'un comme à l'autre, les Grecs donnaient le nom de pharmakon.
Et n'y a-t-il rien qu'on ait soustrait récemment ? » Séverin réfléchit encore, puis, comme pesant ses mots,
« Rien récemment. »
« Et par le passé ?»«
Qui sait ? Je ne me rappelle pas. »
« Je suis dans cette abbaye depuis 30 ans et à l'hôpital depuis 25. »«
Trop pour une mémoire humaine, » admit Guillaume.
Puis tout à trac. « Nous parlions hier de plantes qui peuvent donner des visions. Ce sont lesquelles ?»
Séverin manifesta par ses gestes et par l'expression de son visage le vif désir d'éviter ce sujet.
« Il faut que j'y réfléchisse, tu sais. J'ai tant de substances miraculeuses ici, mais parlons plutôt de Venantius. Qu'en dis-tu ?»
« Il faut que j'y réfléchisse, » répondit Guillaume.